Nous allons passer à la délibération suivante. Alors, comme on l'a évoqué en réunion des présidents l'autre soir et conformément aux règles qui ont été revues avec le service juridique et par l'alerte de la Haute Autorité pour la transparence pour la vie publique, il nous est demandé sur ce type de délibération, lorsqu'il y a des membres du conseil d'administration, que les membres du conseil d'administration d'Habitat de Lille veuillent bien sortir avant même d'évoquer le sujet pour que ce soit le débat ou le vote, pour éviter tout conflit d'intérêts. Et ça devient maintenant des choses un peu complexes. Et donc, alors, on a Jean-Louis Kircher, André Steinhardt, Lamjed Saïdani, Franche Scherrer, Valérie Haim, Ahmed Cougil, Yvon Richard, Séverine Magdelaine, Pascal Gendreau. Et donc, sinon, on avait Sylvie Seigneur, Serge Scheuer et Hervé Fru. Donc, je demande à ces personnes de bien vouloir sortir. C'est vrai que ça devient parfois complexe, mais c'est de plus en plus appliqué dans les différentes instances démocratiques. Heureusement qu'on n'a pas plus de membres du CA, parce que sinon, on n'aurait presque plus personne autour de la table. Merci. Et donc, alors, vous avez eu la délibération qui a été placée sur table avec une correction, puisque les éléments qui nous avaient été transmis n'étaient pas tout à fait stabilisés. Et donc, il s'agit en fait d'une délibération qui fait suite au programme de renouvellement urbain, avec la concrétisation, après la démolition du 3-5 rue des Roseaux, de l'achat par la ville de la parcelle qui servira à la future maison de la jeunesse et des associations, dont vous avez les détails, mais dont la contenance approximative est de 19,60 ha et pas 19,38 ha, ce qui fait un prix d'acquisition de 365 000 euros hors taxes et pas de 361 000 euros hors taxes. Et donc, pour ça, vous avez les différentes précisions. Et dans l'autre sens, Habitat de Lille avait fait savoir à la commune sa volonté de pouvoir mettre en place un tiers-lieu provisoire destiné aux seniors avant d'avoir la possibilité de pouvoir l'intégrer à l'intérieur de la future résidence senior qui doit prendre place au 37 rue du Général Liberman, ce qui fait qu'ils vont acquérir une parcelle pour pouvoir mettre ce tiers-lieu et ensuite ils mettent des logements en accession sécurisée à la propriété puisque c'est intégré dans le plan guide qui avait été signé avec l'agence de renouvellement urbain. Et donc, la parcelle fait 6,47 ha pour 120 500 euros hors taxes. Et donc, vous avez les différents détails. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de l'emprise à détacher des parcelles mères cadastrées section 39, numéro 854 et 878, d'une contenance approximative de 19 ha et 60 centiards pour une surface de plancher maximale de 1796 mètres carrés, rue des Roseaux à Ilkirch-Grafenstaden, aux conditions ci-dessus exposées et notamment au prix de 365 000 euros hors taxes, et d'approuver la cession de la parcelle cadastrée en section 39, numéro 886, d'une contenance approximative de 6 ha et 47 centiards, rue de l'Orme à Ilkirch-Grafenstaden, aux conditions ci-dessus exposées et notamment au prix de 120 500 euros hors taxes, au profit d'Habitat de Lille. Et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les actes et documents nécessaires à cette transaction, notamment à conclure les compromis et actes authentiques de vente, et plus globalement, à signer tous les actes et documents concourant à la bonne exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y avait des interventions sur ce sujet, M. Barman? Je vous en prie.
Alors, je vous demanderai un tout petit peu de clémence, parce que c'était l'intervention de Séverine Magdelaine.
Oui, c'est ce que j'ai bien compris, donc voilà. Je vous en prie.
Non pas sur le contenu, que j'approuve entièrement, mais c'est simplement que c'est écrit manuellement et c'est toujours un peu plus difficile de relire les gens quand ils font des abréviations. Nous nous réjouissons toujours de voir une délibération sur la rénovation urbaine du quartier Liberman. Pourtant, cette délibération n'est qu'un bout de petit frémissement, un tout petit frémissement en comparaison de ce que le projet méritait. La rénovation urbaine du quartier ne concernait pas seulement la rénovation des logements, elle devait s'accompagner d'un ensemble de projets structurants destinés à ouvrir le quartier Liberman sur le reste de la ville et à renforcer son attractivité. J'en citerai trois. La restructuration de l'école Liberman au nord, qui heureusement a été maintenue, le projet étant trop avancé pour être réinventé et mis en péril. Le pôle petite enfance, qui est malheureusement complètement abandonné et qui prévoyait une restauration scolaire pour les écoles maternelles de Lorme et Liberman, permettant d'améliorer l'attractivité de ces écoles, mais également un deuxième rame pour mieux accompagner les AMAT et aider les familles dans leur choix du mode d'accueil en petite enfance. Quant au centre socioculturel, qui avait vocation à devenir une maison des services pour mieux accompagner les familles, il deviendra une maison de la jeunesse et des associations, mais ne soyons pas trop pressés, il est repoussé à 2028. Alors que tous ces projets étaient prêts à être lancés, ayant fait l'objet d'une large concertation, une concertation avec les usagers, et les habitants du quartier, vous avez préféré les abandonner pour réinventer Liberman. Mais que nous proposez-vous ? Le report ou l'abandon de ces projets montre votre manque de vision stratégique pour l'avenir du quartier. Sous prétexte de vouloir réinventer, renouveler, vous faites table rase du passé et détruisez ce pourquoi notre ville a été reconnue en termes d'accueil des familles. Vous abandonnez complètement les habitants de Liberman, à l'instar du centre socioculturel qui est comme un laissé à l'abandon. Départ du directeur et transfert de l'animateur jeunesse sur d'autres missions sans remplacement. Le centre socioculturel manque cruellement de personnel. Les conséquences de votre gestion sont claires. L'aide aux devoirs a été supprimée pour les collégiens et le centre de loisirs d'été est réduit à 3 semaines au lieu de 2 mois. Cerise sur le gâteau, vous écartez complètement l'association des usagers qui, avec une centaine de bénévoles, contribuait grandement aux animations du phare de Lille. Il est urgent de redresser la barre et de restaurer la confiance de tous les acteurs, de revaloriser le personnel du phare de Lille pour restaurer son attractivité dans l'intérêt des familles. Bien entendu, nous voterons pour, car il est impératif de faire avancer ce dossier. Voilà.
Je vous remercie. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions ? Oui, Madame Galère et Madame Dreyfus ensuite. Madame Galère, je vous en prie.
Merci, Monsieur le maire. Donc, je vais faire un petit point de réponse sur la situation du phare de Lille. Je pense qu'il y a un souci de mise à jour parce qu'on a une directrice au phare de Lille depuis quelques mois et on a la chance d'avoir une directrice expérimentée qui apporte une belle perspective d'un point de vue de la jeunesse au phare de Lille. On a aussi un nouvel animateur qui est riche pour l'activité du phare de Lille et on a des postes qui sont à pourvoir, qui sont en ligne. Mais vous le savez, la conjoncture aujourd'hui sur l'emploi et notamment sur l'animation est très difficile. On est à dispo hein, pour les animateurs, mais c'est difficile de trouver du monde. Sur la question de l'association des usagers du phare de Lille, elle n'est pas du tout écartée. Elle est toujours avec nous, toujours en grande proximité. Elle a une place privilégiée. Toutefois, nous avons la volonté d'amplifier au maximum la participation des habitants dans le centre socioculturel, puisque c'est son essence même à un centre socioculturel, c'est la participation des habitants. Et nous avons à cœur de faire en sorte que chacune et chacun puisse œuvrer dans le fonctionnement de ce centre socioculturel, et cela implique également l'association des usagers du phare de Lille, à qui on reconnaît son caractère historique au sein du phare de Lille et aussi dans le quartier.
Merci. Madame Dreyfus.
Oui, merci Monsieur le maire. C'est dommage que Madame Magdelaine ne soit pas là, parce que c'est à elle que j'ai envie de répondre. C'est elle qui a écrit ces quelques lignes. Je ne pourrai jamais laisser entendre ces termes. Mieux aider les assistantes maternelles. Non. Sur le mandat précédent, vous n'avez pas aidé les assistantes maternelles. Quand nous sommes arrivés, nous les avons retrouvées abandonnée d'après leurs propres termes. Non, ça ne sert à rien de construire un deuxième rame quand on a des démissions d'assistantes maternelles, quand on a des assistantes maternelles qui cherchent désespérément des contrats, qu'elles n'ont pas été soutenues par la politique de la ville pendant des années, voire encore au l'un des derniers conseils municipaux, votre équipe disait qu'il fallait que tous les enfants aient la restauration scolaire, que c'était tellement merveilleux la restauration scolaire, etc., que c'est tellement que l'accueil familial, non, oh, plutôt la cantine, la restauration scolaire, le périscolaire, c'est fantastique. Non, ça ne sert à rien de construire un deuxième rame quand on abandonne complètement une profession, et nous soutenons, nous avons pris ce parti-là, et je soutiendrai toujours nos assistantes maternelles. Je pense que nos enfants sont mieux dans un accueil avec une assistante maternelle qui ont maximum 6 enfants que dans une restauration scolaire ou dans un périscolaire, même si on a des animateurs, qui c'est vrai, qui nous manquent parfois cruellement, mais qu'on en a des super compétents, qu'on a des très très bons directeurs de périscolaire. Néanmoins, la collectivité, ce ne sera jamais comme une assistante maternelle. Donc non, non, pas besoin de construire un deuxième rame pour l'instant. Déjà, ça s'appelle pas ça s'appelle plus rame, pardon. Ça s'appelle RPE, mais ça, c'est pas grave, vous n'êtes pas tout à fait à jour de vos dossiers, on comprend bien. En tout cas, nous souhaitons soutenir nos assistantes maternelles en premier lieu et leur donner des contrats, favoriser tout ce qu'on peut pour qu'elles puissent travailler, avoir du travail. Et quand elles auront repris la profession, quand elles se sentiront vraiment soutenues, qu'elles se ressentiront en confiance, ça commence à être le cas, eh bien, là, nous pourrons envisager effectivement d'ouvrir des locaux. Ce serait mon rêve. Voilà, quant à la restauration scolaire de l'Orme et de Liberman, ce n'est pas du tout un projet abandonné, nous y réfléchissons. Mais il faut savoir que si on ouvre la restauration scolaire pour l'école maternelle Liberman et l'école maternelle de l'Orme, ça va forcément encore enlever des contrats aux assistantes maternelles. Donc voilà, c'est des choses à préparer, c'est des choses à réfléchir. Ça va être des messages qui vont être compliqués à entendre pour cette profession. Voilà, merci monsieur le maire.
Merci. Oui, c'est vrai que sur le centre socioculturel, il y a quand même eu un gros travail qui a été d'ailleurs mené à la fois par les élus de compétence de l'équipe municipale, par la direction générale des services et le service de la solidarité qui chapeaute le centre socioculturel. Nous avons travaillé dur, d'arrache-pied, parce que c'est vrai que quand même je suis arrivé et que j'ai pris mes responsabilités, j'avais affaire à des pétitions qui avaient été mise en œuvre avant notre arrivée et qui avait été relancée à notre arrivée sur la précarité des différents métiers au centre socioculturel. Et nous avons procédé à la titularisation et la création de postes fixes justement au centre socioculturel pour déprécariser. Et c'est d'ailleurs l'objet aussi ensuite dans le tableau des effectifs de terminer la première vague de déprécarisation d'un certain nombre de contrats qui étaient des contrats précaires, et que forcément, déjà que la conjoncture est compliquée, mais en plus, quand c'est un contrat précaire avec un contrat qui ne vous donne pas de perspective, qui vous empêche d'aller dans une banque, de pouvoir souscrire un prêt, c'est sûr que c'est très difficile. Et malheureusement, aujourd'hui, on avait des personnels qui étaient aussi en souffrance par rapport à leurs difficultés aussi sur les perspectives professionnelles et sur leurs perspectives de carrière. C'est ce que nous avons fait. L'ensemble des postes a été constitué, a été sanctuarisé et la déprécarisation s'est faite. Tout un travail de réorganisation du service a été aussi opéré avec une directrice justement qui est à la tête d'un pôle jeunesse, d'un pôle qui regroupe à la fois le service jeunesse et le centre socioculturel pour avoir une dynamique justement entre les deux services puisque ça fonctionne de façon très liée. C'est très intéressant d'avoir cette dynamique conjointe. Madame Barthes a pris ses fonctions il n'y a pas très longtemps. Elle est arrivée sur le secteur et puis elle met en œuvre un certain nombre de nouvelles activités, un nouveau projet, avec tout un travail aussi en lien avec l'association des usagers qui est partie prenante. Et c'est bien ça l'objet aussi d'un centre socioculturel, c'est que les usagers soient partie prenante, de pouvoir s'ouvrir encore plus sur le quartier. Et c'est ce que Madame Barthes souhaite mettre en œuvre en lien avec les élus, s'ouvrir beaucoup plus sur le quartier, aller beaucoup plus dans la ville, avoir plus d'activités et essayer de redonner un second souffle à ce centre socioculturel dans une perspective qui est de vraiment irriguer toute la ville d'Ilkirch-Graffenstaden. Parce qu'un des grands constats que nous avons fait, d'ailleurs, dans les échanges que nous avons eus avec le personnel quand j'ai été les rencontrer aussi avec Mme Galère, M. Saïdani, M. le directeur général des services, les agents m'ont dit clairement qu'aujourd'hui, ce n'était pas le bâtiment qui changerait leur perspective. C'était d'abord le projet qu'il y avait à l'intérieur, c'était d'abord le projet éducatif, le projet social, le projet pour la jeunesse qu'il fallait consolider, structurer. Et le bâtiment, ça serait un plus pour avoir des locaux adaptés, des locaux de dernière génération, bien isolés, bien connectés aussi à Internet, parce que parfois, c'est aussi complexe dans ce secteur-là, la connexion n'est pas toujours très bonne, notamment pour un certain nombre d'ateliers. Et donc, les choses se mettent en place progressivement. Et c'est ce qu'il faut dire, c'est que Rome ne s'est pas construit en un jour. Et là, le centre socioculturel avait besoin vraiment de retrouver du sens, de retrouver un espace aussi à travers l'organigramme dans les services de la ville, puisque c'est quelque chose d'assez inédit d'avoir un centre socioculturel municipal. Il n'y en a pas beaucoup en France, hein. On est vraiment l'exception qui confirme la règle. Et donc forcément, c'est beaucoup plus difficile peut-être dans son fonctionnement, parce qu'il y a un process hiérarchique qui est donné par l'administration et le cadre administratif qui rend des fois les choses plus complexes. Et il fallait trouver comment on pouvait faire cette articulation. Je pense que les choses vont bien, que maintenant les projets commencent à naître, que les moyens qu'il faudra mettre sur la table seront mis. Et qu'en plus, sur ce terrain que nous achetons, nous avons décidé d'y faire une pépinière pour la ville éphémère, pour pouvoir quand même utiliser ce terrain, créer un espace vert au sein du quartier, avant de pouvoir démarrer le chantier. Étant entendu, en plus, que vous voyez très bien que la rénovation urbaine avance progressivement, même si elle n'avance pas aussi vite qu'on aurait souhaité, mais c'est aussi un problème de contexte, hein, puisque les discussions qu'on a avec le bailleur démontrent ce que tout le monde vit en ce moment, c'est qu'avec le surenchérissement des matériaux, beaucoup de projets ont du mal à sortir, notamment les projets qui sont portés par le bailleur, parce que, par exemple, sur la résidence senior aujourd'hui, le surcoût rend complexe le respect d'un certain nombre d'engagements et notamment de conventions sur le prix de vente des logements et les différentes conventions financières avec des promoteurs. Et donc, c'est vrai que c'est aujourd'hui assez complexe. Néanmoins, le 37 a bien été détruit et les projets sont passés en commission d'appel d'offres pour la résidence senior et la résidence à côté. Il y a le 3-5 qui va voir cet espace vert. Nous allons démarrer dès l'année prochaine, en 2024, la création de la nouvelle voirie qui fera la jonction entre la rue des Roseaux et la rue du Général Liberman, justement entre la nouvelle école et ce terrain. Et donc les choses vont continuer puisque, en fait, le bailleur va pouvoir détruire le 25 rue du Général Liberman, ce qui permettra de faire cette voirie. Donc, finalement, les choses sont dans les tuyaux. Après, c'est sûr que ça n'avance pas aussi bien et aussi vite qu'on le voudrait, parce qu'il y a eu quand même des contextes particuliers entre la crise Covid, qui a quand même gelé pendant un temps le projet, et puis ensuite les différentes crises. Néanmoins, le projet continue. Et d'ailleurs, on doit signer très bientôt la dernière convention, l'avenant à la convention de rénovation urbaine. Je dois d'ailleurs rencontrer dans pas très longtemps Catherine Vautrin, la présidente de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et on a eu la visite de Madame la sous-préfète en charge de la politique de la ville, Madame Lélex, qui a trouvé que la rénovation au niveau du secteur Liberman était quand même assez exemplaire et avançait bien par rapport au contexte actuel pour quelqu'un qui est en charge de tous les quartiers prioritaires de la ville, de l'Eurométropole de Strasbourg, et où les choses ne sont pas toujours si faciles. Et c'est vrai que voilà, malheureusement, on a un contexte difficile. Après, sur la petite enfance, Madame Réfus a répondu. Aujourd'hui, il y a des réflexions sur différents projets qui pourraient s'inscrire dans différentes parties de la ville, qui pourraient être aussi portés en partie avec un acteur privé où on ferait une copropriété pour que la ville puisse avoir des locaux supplémentaires. Mais voilà, on essaye d'accompagner les besoins au fur et à mesure et de ne pas créer finalement des bâtiments et des grands bâtiments sans forcément avoir d'usage plein et entier. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une période où on crée des grands bâtiments et ensuite, on se demande l'usage qu'on en aura. Et c'est bien la démarche qu'on a aujourd'hui. Je vous propose de passer au vote sur l'acquisition de ces parcelles. Et donc, le vote est ouvert. Est-ce que tout le monde a pu s'exprimer ? Le vote est clos et donc nous avons 22 pour. Je vous remercie. Et donc on va peut-être d'abord rappeler. Oh oui, mais Monsieur Herbeau va aller chercher. Bien, je vous propose de reprendre. puisque la précédente délibération a été adoptée à l'unanimité.